Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est Henriette Walter que vous allez retrouver plus précisément dans cette émission, puisqu'elle anime avec son talent de linguiste, elle qui est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne, cette série d'émissions, 20 émissions, établies en partenariat entre Canal Académie et la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Dans une toute première émission, Henriette Walter nous a expliqué la différence entre une langue, un dialecte et un patois. Dans la deuxième émission, elle précise les grandes aires géolinguistiques des langues de France. Et dans chacune des autres émissions, il y en a donc 18 qui suivent, eh bien, elle nous présente une langue de France. Et dans celle-ci, c'est le breton, venu de la grande île de la Grande-Bretagne.
Bonjour Henriette Walter.
Bonjour.
Oui, c'est cette île qu'on appelait la Britannia du temps des Romains, bien
voilà.
Entendu. Et évidemment, c'est devenu la Grande-Bretagne lorsque nous avons connu notre petite Bretagne, c'est-à-dire lorsque on a commencé à parler une langue un petit peu particulière dans cette région de France. Cette région de France, c'est l'extrême nord-ouest, tout près de la mer, comme on disait, dans une précédente émission, l'Armorique, Arrémoricon. Mais en Bretagne, on ne parle pas seulement le breton. Il ne faut pas oublier que nous avons la Basse-Bretagne, ou Bretagne bretonnante, où on parle breton, et qui est à l'ouest, et la Haute-Bretagne, qui est à l'est, et où on ne parle pas breton, où on parle une langue romane, le gallo.
Donc, on en parlera. La région de Rennes, alors.
De Rennes,
cette,
voilà.
La région là.
Exactement. Et donc, on en reparlera avec les langues romanes.
Alors, les habitants de Rennes sont donc des Bretons qui ne parlent pas breton.
Eh bien, exactement, exactement.
Ils
l'apprennent maintenant parce que ça leur plaît.
Oui.
Voyez-vous, parce qu'il y a la recherche d'identité et tout ça.
Mais ils apprennent
bien
le breton et n'apprennent pas le gallo.
Oh, aussi.
Aussi.
Oui, on essaye de faire aussi pour le gallo.
Bon, bravo. Alors, ça a commencé.
Alors, ça a commencé au 5e siècle. Au moment où des populations germaniques venues du continent envahissent le sud de la Britannia. C'était des Angles, des Saxons et des Jutes. On ne va pas parler d'eux, parce que ce n'est pas notre histoire. Mais ces gens, ces Germains, ont repoussé les Celtes qui étaient là vers le nord et vers l'ouest. Et une partie de ces gens qui ont été repoussés vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Pays de Galles ou la Cornouaille britannique, eh bien une partie de ces personnes ont pris leur bateau
la mer
et sont arrivés
dans la Bretagne.
Voilà, dans cette région. Et cette région, on ne l'appelait pas encore la Bretagne, on ne l'a appelée que lorsque on a remarqué qu'on a commencé à y parler une langue celtique. Cette langue celtique venue de Britannia. Et on se demande pourquoi. Alors moi, je pense toujours à Astérix le Gaulois. Car dans le village de Petit Bonhomme, il y avait des résistants qui probablement parlaient encore un petit peu le gaulois, quand ces gens venus de Britannia se sont installés. Et donc il y avait peut-être des grands-mères et des grands-pères qui parlaient encore un peu le gaulois, qui n'avaient pas encore été latinisés et qui ont pu refaire vivre cette langue celtique en donnant naissance aux Bretons. C'est pour rire, mais quand même, il y a peut-être un petit peu de vrai dans ce que je suis en train de dire. On voit que les noms des villes, on en revient au toponyme, sont des noms venus des noms de tribus gauloises. Par exemple, Rennes vient de la tribu des Réédonès. Mais les Réédonès ont donné deux noms de villes. Réédonès a donné Rennes et Réédonès, quand ça a été prononcé sur la deuxième syllabe, ça a donné la ville de Redon. Voilà, donc on a Rennes et Redon. Vannes, c'est celle de la tribu des Vénètes. Nantes, celle des Namnètes. Corseul, celle des Curiosolites, etc. Donc la langue bretonne est née à ce moment-là. Et elle s'est développée. Et c'est encore dans les toponymes que l'on va voir des choses intéressantes parce qu'il va y avoir des suffixes qui vont se manifester d'une certaine manière à un certain endroit de la Bretagne. Je veux parler des toponymes en ac et en e dans la Bretagne. Ce suffixe, c'était le suffixe acum du latin qui vient du suffixe gaulois acos et qui permettait de nommer des domaines. Le domaine de un tel, etc. Alors, on a l'évolution qui est différente selon les régions de France. On peut faire une carte de ça. On a l'évolution en AC ou AT, avec un AT, mais qui se prononce A, tout simplement, dans certaines régions. Dans les domaines DOC, avec second AC en Corrèze, Aurillac dans le Cantal, Roya dans le Puy-de-Dôme. Ou bien AI ou AY, c'est-à-dire E, ou même Y, dans le bassin parisien, le centre et le nord. Alors évidemment, on a Chantilly dans l'Oise, mais on a aussi Orly, Orly au sud de Paris, qui est le même mot que Aurillac dans le Midi. Là, c'est la ville d'Aurélius, le domaine, disons. Dans la zone franco-provençale, on va avoir des terminaisons en E, comme dans Ambérieu, par exemple. Et en Bretagne, on a deux possibilités. Soit AC ou EC ou EC, comme Brignac ou Carantec, soit E, dans la partie orientale, en Pays Gallo, avec Vitré, en Ille-et-Vilaine, ou Janzé. Donc, on a là une évolution différente. Alors, l'évolution en E représente une caractéristique des autres parlées de l'Ouest, mais on ne peut comprendre la présence des formes en AC que comme une résistance sous la pression du breton, justement. Donc, on arrive à faire une carte, disons, permettant de voir qu'on n'a jamais dû parler breton à Janzé ou à Assigné, en Ille-et-Vilaine, alors qu'on a dû le parler à Pipriac ou à Messac, pourtant également en Ille-et-Vilaine. Donc, d'un côté, on a eu l'influence du breton, et de l'autre côté, l'influence des langues de l'île qui étaient à côté. Maintenant, alors que le breton avait été parlé jusqu'aux environs de Rennes, mais avant d'arriver à Rennes, au IXe siècle, il a régulièrement reculé au cours des siècles suivants. Et aujourd'hui, on ne parle plus du tout au-delà d'une ligne qui va de Plouas jusqu'à Vannes. Il faut dire qu'entre le IXe siècle et le XXe siècle, le breton a reculé d'une centaine de kilomètres au nord, en gros de Saint-Malo à Plouas, et d'une quarantaine de kilomètres au sud, de Pornic à Vannes. Ce recul est en grande partie dû à la chasse au patois, qui avait commencé tout de suite après la Révolution, mais c'est surtout à la fin du XIXe siècle que va se généraliser dans toutes les écoles d'Europe même, je peux dire, mais en tout cas en Bretagne, avec la pratique de ce qu'ils ont appelé le symbole.
Le symbole,
c'est Père Jacques Ézélias, qui en a beaucoup souffert, qui le raconte dans Le Cheval d'Orgueil. Alors je vous lis quelques lignes de Père Jacques
Ézélias.
Ce breton. À propos de symbole, la vache est souvent symbolisée par un objet matériel, n'importe quoi. Un galet de mer, un morceau de bois ou d'ardoise que le coupable, point d'exclamation, doit porter en pendentif autour du cou, au bout d'une ficelle, un sabot cassé, un os d'animal, un boulon que le maître d'école remet au premier petit bretonnant qui lui offense ses oreilles de fonctionnaire avec son jargon truand d'œil, mot que je ne connais pas. Le détenteur de la vache n'a de cesse qu'il n'ait surpris un de ses camarades en train de parler breton pour lui refiler l'objet. Le second vachard, à son tour, se démène de son mieux pour se débarrasser du gage entre les mains d'un troisième, et ainsi de suite jusqu'au soir, le dernier détenteur écopant la punition. C'est cette coutume cruelle qui s'est maintenue, dit-on, jusque vers les années 1950 ou 1960 dans certains villages. C'est horrible,
mais c'est fini.
Et c'est fini, heureusement.
On apprend les langues régionales, dont le breton et dont le gallo.
Voilà.
Tout va bien.
Alors maintenant, quelques mots pour cette langue qui se maintient quand même également dans les patronymes. Alors, on connaît des noms bretons comme le goff ou le goffique. Le goff, c'est le forgeron, typiquement breton, qui correspond à le fèvre en français, ou le fébure. Le goffique, c'est le diminutif de le goff. Le gwen, c'est l'équivalent de le blanc. Et le du, c'est l'équivalent de le noir. Sous Tanguy, on peut identifier à la fois tant, ardeur, et qui, le chien, Voici également quelques prénoms bretons.
Voilà, qui reviennent à la mode.
Elias. Ah oui, alors on a Elias qui correspond à Élie, Fanch qui correspond à François, Erwan qui correspond à Yves, Père qui correspond à Pierre, Catel qui correspond à Catherine et Annick qui correspond à Annie. Alors évidemment, ça s'est dialectalisé, c'est aussi devenu des patois, bien entendu, et on a plusieurs possibilités. À l'heure actuelle, on peut déterminer 4 variétés de breton qui correspondent plus ou moins aux anciens évêchés. Donc il y a le cornouaillais, le léonais et le trégorrois, que l'on regroupe sous le sigle KLT, avec les initiales de ces mêmes mots en breton, Kern, Léon et Tréguer, qui partagent de nombreux traits communs.
Et un quatrième.
Alors que le quatrième, c'est le plus rigolo, si j'ose dire. C'est le Vantais qui est le plus curieux. Il est un petit peu spécial. En Vantais, la finale pour dire le mot Bretagne, c'est braise avec un Z.
Oui, donc ça c'est du Vantais quand on voit le...
Attendez, avec le Z, c'est les autres, c'est les KLT, mais c'est H en Vantais. Et vous avez dû remarquer qu'il y a sur certaines voitures BZH. B, ça veut dire Bretagne, avec ZH pour n'offenser personne. Comme ça, on a à la fois le KLT et le Vantais.
Ah d'accord, eh bien, voilà, on saura. En
voilà,
voyant les voitures,
à chaque fois que vous en verrez, vous verrez que c'est amusant.
Ils ont unifié ces quatre variétés.
Voilà. Il y a une autre chose qui est très particulière en ce qui concerne le breton, mais qui concerne aussi toutes les langues celtiques, c'est ce qu'on a appelé la mutation consonantique. Alors c'est très compliqué.
Expliquez-nous.
C'est une des grandes difficultés pour trouver un mot dans le dictionnaire, car les mots ne commencent pas toujours par la même consonne en breton, et en irlandais, et en gallois, etc. Ça correspond à quelque chose d'autre dans lequel je ne vais pas entrer, mais qui sont dus à la forme grammaticale que le mot avait dans l'ancienne langue. Et donc, c'est un reste, si vous voulez, c'est une scorie de l'ancienne langue. Ce qui fait que vous avez le mot qui désigne la tête, qui peut se manifester sous 3 formes différentes. Pen, ben ou fen. Selon que le mot précédent est l'adjectif possessif « votre », qui entraîne la consonne « peu », c'est-à-dire « peine », l'adjectif possessif « ta », qui nécessite un « b », « ben », ou l'adjectif possessif « leur », qui exige un « f ». C'est la complication terrible et il faut les apprendre par cœur. Mais on va être consolé si on sait que seules 7 consonnes sont soumises à ce genre de modification. « Peut que », B de gueux et M.
Ça nous rassure vraiment.
Voilà,
beaucoup.
Alors oui, alors ça fait rien. Les origines, on ne va pas l'apprendre aujourd'hui.
Non, pas vraiment. Donc, enfin, on va peut-être s'y mettre un jour, peut-être.
Les origines du lexique breton sont en majorité celtiques. Par exemple, coat, bois, menaise, la montagne, aval, la pomme. Alors évidemment, aval, ce n'est pas comme tout à l'heure. Ce n'est pas comme lorsqu'on parlait du Val d'Aran. Ce n'est pas du tout la vallée, mais c'est la pomme. On reconnaît là presque le mot anglais, apple.
Oui, presque.
Oui, il faut chercher, voilà. Il présente aussi des formes empruntées au latin. Diaul, le diable, ou cador, la chaise, ou scol, l'école. Et c'est à partir du XIIe siècle que commencent à pénétrer des mots empruntés au français. Soudard, militaire. Gouéture, la voiture. Personne, le recteur, le curé. Et douce, qui veut dire doux, sucré, avec, comme on le voit, des évolutions sémantiques parfois très inattendues. Le breton est donc la seule langue celtique de France, alors que les langues germaniques y sont plus nombreuses, et la prochaine émission sera consacrée à l'une d'entre elles, le flamand.
Merci Henriette Walter, je ne vous promets pas de me mettre au breton dès demain, mais enfin vous avez éclairé ma lanterne, ce qui fait que je vais plutôt revenir vers les langues romanes, pour moi ce sera plus simple. Alors vous avez écrit 2 ouvrages importants, La dynamique des phonèmes dans le lexique français contemporain, et c'est diffusé chez Droz, et puis un ouvrage qu'on a tous plaisir à lire, Aventures et mésaventures des langues de France aux éditions du Temps. Ce ne sont que 2 de vos ouvrages, mais il y en a beaucoup d'autres. Merci d'avoir animé cette émission qui est proposée en partenariat avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, DGLFLF, je vous dis même les initiales. Merci Henriette Walter. On retrouvera sur Canal Academy beaucoup d'autres émissions dans cette série consacrée aux langues de France. À bientôt.
À bientôt.
Retrouvons maintenant Clément Moutier pour découvrir la langue bretonne en musique.
C'est en musique maintenant que Canal Academy, en partenariat avec le Hall de la Chanson, vous propose de découvrir la langue bretonne. Dans cet extrait, retrouvez le groupe Bugle Choir avec Marthe Vassallo et Philippe Olivier. Musiciens traditionnels bretons reconnus, ils interprètent ici un extrait d'une de leurs compositions.
Na blazar hos na huizar pul zyron na non kama une non.
Enfin, pour découvrir la chanson bretonne, qui de mieux que le célèbre Alan Stivell, chanteur mais aussi multi-instrumentiste. Écoutez un extrait de la chanson Trimartolode. Alan Stivell confie ici après le rôle du chant dans la préservation de la langue bretonne.
Le chant en Bretagne a un rôle primordial parce que tout bêtement, si on cherche en Bretagne ce qui va représenter le mieux l'originalité de la Bretagne, parce que c'est quand on cherche la diversité, il faut chercher l'originalité, quoi. Donc mettre en exergue ce qui est un peu différent en Bretagne. D'ailleurs, on va vers la musique la traditionnelle mais la plus archaïsante, qui est le chant a cappella, quoi. Donc c'est les Guerzius, c'est le Cornadiscan. Et c'est ça qui domine au départ. Ensuite, ça paraît peut-être un peu marrant à dire, mais en même temps, le Biniou Bombarde, c'est moderne presque. C'est-à-dire qu'au fond, dans certains coins, mon coin, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire la Haute Cornouaille, le Poher, la montagne, il faudrait dire que par moment, le Biniou Bombarde, le couple de sonneurs traditionnel, est quelque chose qui est presque importé, je ne dirais pas partout, mais en tout cas, là, dans les pays du Cornadiscan, Poulaouen par exemple, Biniou Bombarde viennent plus quand même de la Cornouaille vers Basse Cornouaille. Et au fond, dans ces coins où on retrouve des formes peut-être les plus archaïques de musique bretonne, ben, on en retrouve ces racines qui sont le chant a cappella. Donc déjà, pour ce qui est de l'enracinement, c'est vrai que le chant a une énorme importance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on trouve ensuite comme instrument? Alors là, je l'ai cité, bien sûr, c'est Biniou Bombarde. Parce qu'effectivement, le temps d'avoir tout un développement depuis quand même quelques siècles, d'une tradition particulière à la Bretagne, et ce qui fait que c'est aussi une indication sur les tendances esthétiques bretonnes, quoi, qui ne sont pas toujours forcément non plus exprimées par le chant.
Canal Academy vous invite à consulter les autres langues régionales évoquées par Henriette Walter, professeure de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Dans la prochaine émission, elle nous emmènera dans le nord de la France à la découverte de la langue flamande. Canal Academy vous invite également à découvrir en chanson les langues régionales de France sur le site du Hall de la Chanson www.lehall.com.